Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire les textes de la prédication de ce matin. Le premier texte en Deutéronome, chapitre 13, versets 2 à 6. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a libéré de la maison de servitude. Et il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu t'extirperas ainsi le mal au milieu de toi. Ensuite, un deuxième texte dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1, versets 20 et 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et enfin, le texte principal de la prédication, dans la première épître de Jean, juste après, au chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car c'est celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jusqu'ici la parole de l'Éternel.
Ce n'est qu'avec un fil à plomb que je peux voir si un mur est droit, enfin un fil à plomb ou tout ce qui en est dérivé. Et ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que je peux connaître la vérité. Et c'est sur lui que nous comptons ce matin encore pour saisir sa parole. Et l'épître de 1 Jean nous accompagne maintenant depuis quelques mois. C'est un privilège de pouvoir s'y plonger, pour apprendre à mieux connaître ce que Dieu veut nous révéler par sa parole, qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il l'a gardé afin que nous puissions la voir aujourd'hui telle que nous l'avons devant nos yeux. Et cet épître, par son contenu, nous permet de comprendre que les croyants à qui cette lettre était destinée avaient besoin d'être rassurés, d'être fortifiés, d'être encouragés. En fait, de faux prophètes étaient sortis du milieu d'eux et tentaient même de les déstabiliser. Alors, lors de la dernière prédication, la fin du chapitre 3, nous nous sommes réjouis ensemble de pouvoir saisir que Dieu est notre assurance. Et nous avions vu deux vérités fondamentales, qui sont des vérités extraordinaires, peut-être vous vous en souvenez. La première, c'était « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout ». Peut-être vous vous souvenez, c'est une vérité tellement fondamentale. Et la deuxième, « Dieu demeure en nous par son esprit ». Dieu demeure en nous par son esprit. C'était la racine de notre assurance. Deux fondement inébranlable pour notre assurance. Mais voilà que des faux prophètes arrivent et disent « Dieu demeure en nous par son esprit ». Est-ce que cette affirmation de cette personne qui s'intitule être un porte-parole doit être simplement acceptée comme ça gratuitement ? Nous avons vu la dernière fois que la racine « Dieu demeure en nous par son esprit » produit un tronc. Et ce tronc s'appelait « garder les commandements de Dieu et faire ce qui lui est agréable ». Ce qui nous permet en fait d'avoir un élément visible qui nous permet de connaître la présence de quelque chose qui est invisible. Si quelqu'un dit « Dieu demeure en lui », mais qu'il ne pratique pas les commandements de Dieu, il n'a pas de tronc. Ça signifie que sa racine est imaginaire. Si quelqu'un dit que Dieu demeure en lui, mais qu'il ne pratique pas les commandements de Dieu, il n'a pas de tronc, selon l'illustration qu'on a prise la dernière fois. Ça signifie que sa racine est imaginaire. Mais afin d'assurer que les croyants qui reçoivent la lettre ne se méprennent pas sur l'esprit qui conduit les enseignements qu'ils peuvent recevoir, eh bien le Saint-Esprit, par Jean, utilise un terme ici dans le chapitre 4 qui est très fort, qui est le terme « éprouver ». Éprouver ou mettre à l'épreuve, examiner. Ce terme indique un examen pour reconnaître ce qui est véritable. C'est le même terme que Pierre utilise d'ailleurs lorsqu'il parle de l'or éprouvé par le feu, pour savoir si c'est vraiment de l'or ou pas. C'est comme lorsqu'on examine un billet de banque pour être certain qu'il est véritable. Et cet examen sera l'objet de notre premier point, que j'intitulerai simplement « Éprouver ». Éprouver. L'épreuve a pour but en fait d'écarter l'erreur et de reconnaître la vérité. Écarter l'erreur et reconnaître la vérité. Et notre deuxième partie sera justement consacrée sur cette reconnaissance de la vérité qui nous permet d'être assurés que ce qu'on entend vient de Dieu et d'être rassurés que nous sommes de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai simplement intitulé le deuxième point « Reconnaître ». Et la prédication a pour titre, très simplement, « Éprouver et reconnaître ». Éprouver et reconnaître. Commençons par cette partie d'éprouver. Donc, ayez vos Bibles ouvertes dans 1 Jean 4. Nous allons revenir maintenant au premier verset où il est dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit ». Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez pour écarter ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, en réfléchissant à la manière de vérifier la validité d'un billet de banque, en fait, je suis allé me renseigner sur le site de la Banque Nationale Suisse. Et là, j'ai trouvé des éléments fort intéressants. Par exemple, il y avait des questions-réponses. Et à la première question, qui était celle-ci, qui a le droit d'émettre des billets de banque en Suisse ? Qui a le droit d'émettre des billets de banque en Suisse ? Alors, je vais vous lire la réponse de la Banque Nationale Suisse. En vertu de l'article 99 de la Confédération fédérale, la Confédération détient exclusivement le droit d'émettre des billets de la banque en Suisse. En vertu de l'article 4 de la loi sur la Banque Nationale, okay, elle a transféré ce droit exclusif, monopole d'émission des billets de banque, à la Banque Nationale Suisse. C'est elle seule qui peut produire des billets de banque. Ok ? C'est très intéressant en fait pour notre sujet du jour. Comme les billets de valeur ne peuvent être émis que par la BNS, la vérité ne peut être émise que par le Saint-Esprit. Une autre question, à la question « Comment éviter de se faire remettre de faux billets ?» Ça peut être intéressant, ça peut être utile, non ? Eh bien, il y a une réponse qui nous est donnée. Et la voici. La meilleure façon de se protéger consiste à se familiariser avec le graphisme et les éléments de sécurité. Chaque billet possède divers éléments de sécurité qui peuvent être vérifiés sans moyen auxiliaire. Je redis cette réponse, qu'on la saisisse un peu. Donc la meilleure façon de se protéger consiste à se familiariser avec le graphisme, donc comment le billet est fait, le dessin, etc., et les éléments de sécurité. On en parlera. Chaque billet possède divers éléments de sécurité qui peuvent être vérifiés sans moyen auxiliaire. Et en poursuivant, j'ai découvert qu'il y avait une vingtaine de tests de sécurité pour vérifier la validité d'un billet de banque suisse actuel. Je crois que je n'ai pas besoin d'insister sur le fait qu'il est important de vérifier qu'un billet de banque soit valable. Vous faites d'ailleurs rapidement la différence entre un billet de banque du jeu du Monopoly et un vrai billet de banque. Et oui, parce que vous connaissez le graphisme du vrai billet. De même, face à un message qui est complètement différent de l'évangile de l'Esprit de Dieu, celui qui connaît le graphisme de l'évangile n'aura pas de peine à écarter l'évangile de Monopoly. Ok ? Connaître le graphisme de l'évangile de l'Esprit de Dieu. Et là, ça saute aux yeux. L'argent du Monopoly, ça saute aux yeux. Mais il existe des contrefaçons, des billets qui demandent un examen un peu plus précis, parce que le graphisme ressemble furieusement à un vrai billet. C'est alors que les tests de sécurité sont essentiels. Et Jean nous présente ici, dans le chapitre 4 de 1 Jean, des tests de sécurité. Et j'aimerais nous aider à les comprendre ici. Il y a trois choses dans ce texte qui sont des tests de sécurité pour voir si le message vient de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit du monde. Est-ce que c'est un vrai billet ou un faux billet, si on continue l'illustration. Donc premièrement, et je vous les donne déjà les trois, puis ensuite on les développe. Premièrement, il est nécessaire d'éprouver ce que nous entendons, éprouver les paroles qui sont dites. C'est un premier test, on va voir comment. Deuxièmement, il y a de fausses manières d'éprouver, qui sont inutiles. Et troisièmement, j'aimerais bien sûr vous présenter la bonne manière que Jean nous montre avec les trois tests de sécurité. On revient sur la nécessité peut-être, d'abord. Pourquoi est-il utile de parler de nécessité d'éprouver ? Je parle de la parole que l'on reçoit. Eh bien, certaines personnes n'éprouvent pas parce qu'elles sont paresseuses. Paresseuses. J'écoute ce qu'on me dit et puis je fais confiance à tout ce qu'on me dit. Mais la paresse n'est jamais une attitude chrétienne et cela le remplit de faux billets. Celui qui n'est pas prêt à éprouver va être rempli de faux billets. Certains n'aiment pas la théologie. Ils disent la doctrine divise. C'est un peu comme si un sportif disait que les règles dans son sport divisent. Donc il ne veut pas les connaître. Imaginez un joueur de basket qui prend le ballon, il le met sous son pull, puis il va jusqu'au panier. Ça ne veut pas aller. D'autres disent qu'éprouver n'est pas spirituel, c'est charnel. Eux, ils ne s'occupent pas des choses du monde. D'autres encore disent que l'important, c'est la sincérité. Évidemment, ils pensent que quand quelqu'un est sincère, il n'y a pas besoin d'éprouver ce qu'il dit, il est sincère. D'autres disent enfin que l'esprit, en fait, n'est pas très important. C'est le résultat, c'est le produit. Si ça marche, si mes brûlures sont guéries, c'est bon. En fait, si la caissière du magasin à Migros accepte mon faux billet, c'est bon. Ah ben non. Toutes ces personnes ne s'intéressent pas à éprouver le message qu'ils entendent. Ou pire encore, elles s'y opposent, parfois. Mais la Bible est remplie de mises en garde contre les faux enseignants qui éloignent de Dieu, tout en parlant de lui. Et nous voyons cela dès le jardin d'Éden. Le fait que la Bible en est remplie devrait déjà être un puissant encouragement à éprouver ce que nous entendons. Le texte de 1 Jean 4:1 ici est parfaitement clair. Il est dit « Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits ». C'est un ordre, c'est parfaitement clair. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Ce texte, parfois pris hors contexte, est utilisé pour dire qu'il faut tester les êtres spirituels. Mais le contexte nous parle des faux prophètes qui sont des personnes. Il s'agit donc de les éprouver pour savoir quels sont les esprits qui les animent. Il n'y a pas d'action à mener face à des démons. Je referme la parenthèse. Il semble important de le préciser ici. Donc, ce texte de 1 Jean 4:1 est clair, nous sommes appelés à éprouver. La mise à l'épreuve permet d'écarter ce qu'il y est faux. Parce que s'il y a un Saint-Esprit qui nous donne la vérité, il y a aussi de mauvais esprits capables de manifester leur message faux comme des anges de lumière. L'histoire de l'Église nous enseigne aussi qu'une merveilleuse expérience ne certifie pas forcément que c'est la vérité. Il n'est pas question d'honnêteté ou de sincérité, mais d'erreur et de vérité. Et la vérité doit être définie, et elle ne peut être définie qu'en l'éprouvant avec une référence stable et solide. Et tout le monde est concerné. C'est pas juste les pasteurs. C'est pas juste certains qui ont un don particulier de discerner les esprits. Non. Chacun est responsable d'examiner ce qu'il entend parce qu'en fait, il est responsable d'écouter la vérité. Et celui qui vit, et ça je le donne déjà ici, on le verra par la suite, et ça c'est quelque chose de tellement fort. Pour chaque chrétien, souvenez-vous, celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a les moyens de reconnaître la vérité. Et il peut ainsi être assuré de vaincre les faux prophètes. Donc les raisons pour souligner la nécessité d'éprouver ce qu'on entend pourraient être allongées en parlant des conséquences de tous les faux enseignements. Mais je pense qu'on peut déjà s'arrêter ici pour dire que c'est nécessaire d'éprouver. Les faux billets qui ressemblent aux vrais doivent être examinés à l'aide des éléments de sécurité pour ne pas se leurrer. Les faux billets qui ressemblent aux vrais doivent être examinés à l'aide des éléments de sécurité afin de ne pas se faire leurrer. J'aimerais maintenant voir avec vous quelques fausses manières d'éprouver, afin qu'on les écarte, hein, on balaye d'abord, puis ensuite on ira prendre les bonnes. Premièrement, certains disent que c'est la possession de certains dons spirituels qui fait que quelqu'un est animé par l'Esprit de Dieu. Par exemple, le don de parler en langue. Si quelqu'un n'a pas ce don-là, il n'est pas de Dieu. Mais c'est un mauvais texte, c'est un mauvais test. Parce que par exemple, la question de Paul dans 1 Corinthiens 12:30 appelle une réponse négative indique que tous n'ont pas reçu ce don. Non, Dieu distribue les dons qu'il veut à qui il veut, à l'époque qu'il veut. Sinon, tous ceux, parce que si on reprend ce texte de 1 Corinthiens, sinon tous ceux qui ne sont pas apôtres, qui ne sont pas prophètes, qui ne sont pas docteurs, donc tous en même temps, hein, qui ne font pas des miracles, qui n'ont pas le don de guérison, qui n'ont pas le don des langues, qui n'ont pas l'interprétation, devraient être considérés comme n'étant pas de Dieu, donc comme étant des antichrists, comme étant dans l'erreur. Alors que la Bible nous présente comme étant en Dieu des personnes qui n'ont pas tous ces dons ensemble. Très clairement. Donc, éprouver en disant que quelqu'un doit avoir un don particulier pour dire qu'il est chrétien, c'est une fausse façon d'éprouver. On l'écarte. Certains disent que le résultat quantitatif d'un ministère est une preuve que cela vient de Dieu. Les miracles sont une preuve. Mais s'appuyer sur ces phénomènes, c'est dangereux. Parce que Jésus lui-même nous a avertis, vous pouvez relire dans Matthieu 24, que des faux prophètes, des faux Christs séduiront beaucoup de gens. Et que même ils produiront de grands signes et de grands prodiges. Donc non, ce n'est pas un test de sécurité, on l'écarte aussi. Certains disent que la ferveur est une preuve. Hein? Être fervent, mais les mauvais esprits sont très fervents. Et un prédicateur disait, une grande excitation n'est pas la preuve de l'œuvre du Saint-Esprit, ni d'ailleurs une grande énergie dans une prédication. Tout ça peut être falsifié par le diable. Il est très dangereux de se baser sur les expériences comme des visions, des rêves, des situations étranges ou d'être guidé de façon particulière, des guérisons étonnantes, car tout cela peut être contrefait par l'ennemi. Tout cela peut être contrefait par l'ennemi. Donc regardons maintenant à ce que Jean nous présente. Hein, il est essentiel, si on reprend toujours l'illustration du billet, d'éprouver notre billet de banque selon les indications de l'émetteur du billet, et pas selon nos propres façons de tester s'il est vrai ou pas. Si je commence à mettre de la peinture dessus ou que je commence à le brûler, ben, je ne vais pas réussir à tester entre le vrai et le faux, et en plus, je vais bien souvent abîmer le vrai. Non, Jean nous parle de la bonne manière d'éprouver. On y arrive à ces trois tests que je vous disais tout à l'heure. Hein? Le premier, c'est il faut éprouver ce qui est dit, les paroles qui sont dites. Je vais le développer. Deuxièmement, il faut tester qui sont les personnes qui écoutent ceux qui disent ça. Et troisièmement, qui ces personnes qui parlent écoutent-elles? C'est les trois tests de sécurité. Et ils doivent les trois fonctionner. Comme dans un billet, il n'y en a pas seulement un. Ils doivent tous être donc valables. Donc pour qu'un billet de banque suisse actuel, pour un bon billet de banque suisse actuel, la lumière est importante pour tester la sécurité. Dans la nuit, vous ne pouvez pas le tester, en fait. Vous avez besoin de lumière. Et dans cette lumière, elle permet de voir qu'il y a par exemple des micro-perfs. Il y a une petite croix suisse qui est percée dans le billet, quelque part. Hein? Ou encore, elle permet de voir... en recto verso, avec la lumière, tout à coup, il y a des endroits, il y a des croix qui ne sont pas complètes. Puis suivant que vous mettez la lumière, eh bien, elles sont complètes tout à coup. Ou bien l'arc qui se déplace sur le globe du billet de 50, par exemple. Ou bien le globe qui change de couleur. Ou la croix qui devient un drapeau. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont révélées par la lumière. Eh bien, si dans l'Ancien Testament, les faux prophètes sont détectés, non pas par les miracles ou même un accomplissement de ce qu'ils auraient dit, mais par la lumière de la fidélité à Dieu et la fidélité à conduire à Dieu, comme on l'a lu dans Deutéronome tout à l'heure, cela n'a pas changé dans le Nouveau Testament. C'est toujours la fidélité à Dieu et la fidélité de conduire à Dieu qui sera la lumière qui éclairera nos tests de sécurité. Et l'esprit à éprouver, c'est la lumière de Jésus-Christ qui va permettre de vérifier le test de sécurité, puisqu'il est Dieu. Et c'est la lumière de Jésus-Christ qui va permettre de vérifier les tests de sécurité. Alors prenons le premier, hein, ce qu'ils disent, c'est les versets 2 et 3. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Quatre éléments, tous essentiels. Le premier élément, qu'il confesse. Le mot dans l'original a donné d'ailleurs le mot homologué, ne signifie pas seulement dire quelque chose. Confesser, ici, dans ce cadre, ce n'est pas juste dire quelque chose. Ce n'est pas juste déclarer ouvertement. Mais on peut aller plus loin, c'est faire profession de foi, approuver. On peut même comprendre ce terme comme étant se déclarer l'adorateur de quelqu'un. Confesser ici ne signifie pas simplement affirmer que Jésus est venu en chair. Ça, les démons, ils peuvent le faire aussi. Hein. Non. Cette affirmation est accompagnée d'un engagement en lien avec l'affirmation elle-même, avec ce qui est dit. Comme dans 1 Jean 1,9, quand il est dit « si nous confessons nos péchés », ce n'est pas juste si on dit qu'on a péché. Ce n'est pas juste ça. C'est que ça vient du cœur, il y a une action, une implication dans cette confession. Donc ça, c'est une première chose. Confesse. Ce n'est pas juste le dire, c'est être impliqué, c'est-à-dire de le vivre réellement, d'être soumis quelque part à celui que l'on confesse, puisqu'on confesse quelqu'un. Et c'est donc le deuxième élément, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ensemble d'ailleurs. Les deux termes sont importants ici. Et les deux termes sont importants ensemble. Une personne, donc un nom, Jésus-Christ, deux natures. Certains disaient à l'époque de Jean que Jésus était un homme fils de Marie et Joseph et qu'en fait le Christ éternel était venu sur lui au moment de son baptême. Et peu avant sa crucifixion, le Christ éternel était reparti de l'homme Jésus. Mais non ! Jésus-Christ, depuis le début jusqu'à la fin, une seule personne de nature. Confesser Jésus-Christ venu. Ça, c'est un terme, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce terme ici, mais venu. C'est un terme qui veut nous dire qu'il existait avant. Si on vient, c'est qu'on existe avant. On ne peut pas venir si on n'existait pas avant. En fait, personne ici ne peut dire « je suis venu en chair ». Vous n'êtes pas venu, vous n'existiez pas. Vous êtes né, vous êtes venu à l'existence. Mais vous n'êtes pas venu dans le sens... je dis vous êtes venu à l'existence, voilà. Une façon de parler qui nous confond un peu. En fait, on n'existait pas. Alors que Jésus-Christ, lui, existait. Il n'a pas commencé à exister à Noël. Enfin, quand on se souvient de cette naissance, on ne se souvient pas d'une venue à l'existence. On se souvient de quelqu'un qui est entré dans ce monde. C'est un visiteur qui vient d'une autre réalité. Il a fait, si vous voulez, irruption dans l'histoire humaine. Un être existant éternellement est venu. Dieu est venu. Vous voyez, c'est très fort en fait, cette phrase ici. Hein, si Jean nous la donne, ce n'est pas juste comme ça. C'est un vrai test. Et donc, confesse Jésus-Christ venu en chair. C'est-à-dire qu'il était comme nous, avec une chair humaine. Il n'était pas un fantôme. Ou ce n'était pas une théophanie. Oh là, c'est quoi ça? En fait, une théophanie, c'est quand Dieu se manifeste d'une manière visible. Mais ce n'est pas forcément un corps comme nous. On voit Abraham, Gédéon, Josué, qui ont vu l'ange de l'Éternel. C'était une théophanie. Non, Jésus-Christ est né d'une femme. Il a grandi. Il a une humanité totale et complète comme la nôtre. Donc, confesser que Jésus-Christ est venu en chair, c'est reconnaître Dieu qui s'est fait homme, et comme c'est Dieu, s'y soumettre et l'adorer. Vous voyez ? Donc, confesser Jésus-Christ venu en chair, c'est reconnaître Dieu qui s'est fait homme, et comme c'est Dieu, eh bien s'y soumettre et l'adorer. Donc, tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme vrai homme, donc comme mon représentant pour payer mon péché, ne sont pas de Dieu. Et tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme vrai Dieu, donc le seul qui peut payer le prix éternel pour mon rachat, ne sont pas de Dieu. Et là, l'islam, le judaïsme, les témoins de Jéhovah, les mormons, ne passent pas ce test de sécurité. Ils ne le passent pas. Passons à un autre test. Pour les billets de banque, on a parlé de lumière, hein, mais pour les billets de banque, il y a aussi le toucher qui est important. Il y a des marques tactiles pour des personnes malvoyantes ou des impressions en relief qui sont faites sur les billets. Eh bien, pour éprouver les esprits, le type de personnes qui écoutent, qui sont touchées par le message, manifeste quel esprit est dans le message. Donc, c'est qui les écoute ? Si le monde écoute avec attention, avec intérêt, il trouve cela très bien, ils sont d'accord avec ce qui est dit, et ils trouvent que c'est toutes des bonnes idées à retenir, tout en étant à l'aise de continuer à vivre selon le monde, cela indique que le message ne vient pas de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas être à l'aise en vivant selon l'Esprit du monde devant un message de l'Esprit Saint. Le terme « monde hein, », juste que Jean utilise ici, il l'a défini dans 1 Jean 2,16, on l'avait vu ensemble. Hein. C'est le monde contenant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ce n'est pas juste ceux qui sont autour de nous, il y a un contenu dans ce terme. Donc le monde tel que décrit par Jean est le même duquel il parle en Jean 15, verset 18 et suivant. Vous pouvez lire toute la péricope, je vous lis juste les deux premiers versets qui disent ceci. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Etc. Donc si le monde écoute et est attiré, tout en restant de le monde tel que décrit par Jean, cela indique que l'esprit du monde est derrière ce discours. C'est faux, hein? Mais c'est ce test ici qu'on voit dans cette parole. Hein? Si le monde écoute, il est attiré et il reste dans le monde. Par contre, s'il est attiré et qu'il est transformé, hein? Ben là, on est dans une espace différente, évidemment. Mais qu'il reste dans le monde et qu'il continue à attirer, c'est absolument génial, eh bien, ça indique que c'est l'esprit du monde qui est derrière ce discours. Et la psychologisation évangélique ne passe pas ce test de sécurité. La psychologisation évangélique ne passe pas ce test de sécurité, puisqu'on dit des choses qui plaisent au monde. Passons au troisième test pour les billets de banque suisse. L'infrarouge, on a besoin d'un appareil quand même, hein. L'infrarouge absorbe une partie de l'image du billet et permet de voir certains éléments essentiels non absorbés. Eh bien, pour Jean, l'infrarouge, c'est la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu elle-même. Parce que le premier test, c'était ce qu'ils disent, le deuxième, c'est qui les écoute, et le troisième, c'est qui ils écoutent. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de ceux qui écoutent ces faux prophètes, mais qui ces faux prophètes écoutent. Quelle est leur référence? Qu'est-ce qui peut les remettre en question? À quoi ils se conforment? C'est le troisième test. Il ne s'agit plus de ceux qui écoutent ces prophètes, mais qui ils écoutent. Quelle est leur référence? Qu'est-ce qui peut les remettre en question? À quoi ils se conforment? Et ça, on le voit verset 6, vous pouvez regarder avec moi, où il est dit, nous, c'est qui là? J'ai tout su dire qui c'est. Le nous ici, c'est Jean et les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament. Okay. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc ce « nous » là ne concerne pas tous les chrétiens, dans tout ce qu'ils pourraient dire. Il concerne ceux qui ont été inspirés par Dieu pour écrire cette parole. On voit tout un mouvement entre « nous », « vous », « il » ici dans ce texte qui nous permet de le comprendre. Cela signifie donc que celui qui connaît Dieu écoute les écrivains du Nouveau Testament, qui tous ont été guidés par le même auteur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Or, si quelqu'un n'est pas prêt à se remettre en question face à la Bible, s'il n'est pas prêt à ce que ses enseignements soient remis en question face à la Bible, eh bien, ne l'écoutez pas. C'est pas plus difficile. Ne l'écoutez pas. Son message ne vient pas de l'Esprit de Dieu. On doit toujours être prêt à être repris, confronté avec la parole de Dieu, avec un message qu'on donne. Si on n'est pas prêt, on ne veut pas ça, eh bien, il faut simplement pas l'écouter. S'ils écoutent le Nouveau Testament, par contre, ils mettront Jésus-Christ au centre. Ils ne mettront pas leur expérience, ce qu'ils ont ressenti ou ce qu'ils ont fait en avant, mais Jésus-Christ, puisque toute l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est de parler de Christ et de le mettre au centre et de le glorifier. Après le message entendu, est-ce que nous disons « quel sauveur merveilleux » ou disons-nous « quel orateur merveilleux » ou est-ce que l'on pense « quelle expérience fabuleuse il a eue, j'aimerais vivre ce qu'il a vécu » ou bien est-ce que je dis « je veux aussi connaître celui qui l'a connu, je veux connaître Christ » Les prédicateurs émotionnels qui ne sont pas soumis à la parole de Dieu ne passent pas ce test. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est quand même bien de vérifier si on a un vrai ou un faux billet de banque, non? Parce qu'avec un faux billet, on ne peut pas faire grand-chose avec. Eh bien, si on a pris le temps de réfléchir et d'écarter ce qui est faux, il est aussi important de prendre quelques instants pour reconnaître ce qui est vrai. C'est notre deuxième partie, on va s'appuyer sur bien des choses qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant. Reconnaître, pour être assuré que cela vient de Dieu, ou pour être rassuré que je suis de Dieu. Et cela a donc deux niveaux, hein, ce que je reçois, et ce que je suis. Et le premier élément que je soulèverai, c'est l'homologation. Vous vous souvenez, hein, le terme utilisé pouvait aussi être utilisé pour homologuer. Et puis là, je le fais rapidement pour les deux éléments. Le premier élément, si je peux dire oui, le message que j'entends est conforme à la confession que Jésus-Christ est venu en chair. Oui, il est écouté avec plaisir, non pas par ceux qui ont l'esprit du monde, mais par ceux qui ont l'esprit de Dieu. Et oui, il est conforme au Nouveau Testament. C'est un vrai billet. On peut s'en réjouir, il a de la valeur. On peut le recevoir et être heureux de pouvoir grandir avec ses enseignements qui sont selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Maintenant, le deuxième niveau me concernant, si vous pouvez dire ceci, oui, je confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Et maintenant, vous savez ce que ça veut dire, ces termes, hein, puisqu'on a pris un peu le temps de réfléchir. Donc oui, je confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Oui, j'ai des convictions qui ne sont pas les mêmes que celles du monde, qui rejettent Dieu. Et c'est ce que je partage. Oui, je veux que tout ce que je dis et vis passe par le scanner de la parole de Dieu à laquelle je veux me conformer. Si c'est le cas, je peux dire « je suis de Dieu ». Le vrai billet, test de sécurité. Une parole selon l'Esprit de Dieu ou une vie selon l'Esprit de Dieu, comme pour un vrai billet de banque, me donne la joie de l'utiliser à sa valeur indiquée, car ça vaut réellement quelque chose. Une parole selon l'Esprit de Dieu ou une vie selon l'Esprit de Dieu, comme pour un vrai billet, me donne la joie de l'utiliser selon sa valeur indiquée, ça vaut réellement quelque chose. Ce que j'entends est validé par l'Esprit de Dieu. Ce que je vis manifeste que l'Esprit de Dieu habite en moi et pas d'autre esprit. Et justement, le deuxième élément que j'aimerais aborder, c'est que cet esprit est plus grand que le monde. Il est plus grand que le monde. L'Esprit de Dieu me transforme à salut. L'Esprit de Dieu me guide réellement sur un chemin de bien. Et cet esprit me garde réellement de tout mal. Et comme un vrai billet de banque qui permet réellement d'aller acheter quelque chose, l'Esprit Saint est plus grand que l'esprit du monde, qui ne vaut rien en fait. L'esprit du monde, c'est comme le billet de Monopoly. Rien ne peut être obtenu. Aucune transformation. Pas de direction vers la sainteté. Pas de protection dans la grâce. C'est tout l'inverse. C'est bien plus que ce que l'esprit de Dieu fait. L'esprit du monde, c'est comme les billets de banque du Monopoly. Alors, chers croyants, réjouissons-nous. Et ça, vous pouvez vous le graver dans votre mémoire. Vous êtes prêts pour le graver, là ? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une assurance. Là, je peux maintenant faire une nouvelle prédication juste sur cet élément-là. C'est une assurance extraordinaire qui nous aide à voir la vérité et qui nous rassure puisqu'elle est en nous. Et pour les non-croyants, moi je pourrais juste dire, mais tremblez. Tremblez, parce que l'esprit du monde qui est en vous est bien plus petit que l'esprit de Dieu et ne vous mènera nulle part d'autre qu'à la destruction, à la disette avec vos billets de Monopoly. Et troisième et dernier élément, eh bien, il y a cette recherche à vivre à la conformité à la parole des apôtres. On reconnaît en fait que l'on veut vivre selon la parole. Celui qui connaît Dieu écoute Jean, qui a écrit 1 Jean, et il est ainsi dans l'esprit de vérité. Si vous écoutez ce qui est dans cet épître, ce qu'on est en train d'étudier, eh bien c'est que nous cherchons à être conformes à la parole. La vérité est unique, il n'y a pas deux vérités. La référence à la vérité est unique, il n'y a pas deux Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est l'auteur de l'Écriture. On l'a vu tout à l'heure quand on a lu le texte de 2 Pierre 1, 20 et 21, que vous avez peut-être dans votre cœur d'ailleurs. Donc avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aimons prêcher la parole de Dieu ici fidèlement. C'est sa parole que nous voulons prêcher. C'est sa parole que nous voulons comprendre. C'est par sa parole que nous voulons être transformés. Et c'est sa parole que nous voulons avoir comme guide, comme pain béni pour notre âme, afin de nous y conformer. Alors voilà une question qui nous reste. À quoi voulons-nous nous conformer ? À l'esprit du monde, avec ses billets de Monopoly ? L'esprit de l'erreur, avec ses faux billets, même très semblables au vrai ? Mais avec lequel vous ne pourrez pas survivre. Ou voulez-vous vous conformer à l'esprit de vérité avec des billets de banque valables et utiles? Pour l'illustration, se conformer à l'esprit de vérité, c'est écouter la Bible, c'est connaître Dieu, c'est être de Dieu. Alors en conclusion, j'aimerais fixer deux choses dans notre cœur par la grâce de Dieu. Que deux choses nous restent. Il peut rester plein d'autres choses évidemment, mais deux choses très fortes. La première: ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tout simplement, c'est texte biblique. 1 Jean 4:1. Que ça nous reste. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ne vous laissez pas leurrer par de faux billets, par l'esprit de l'erreur, mais sachez utiliser les tests de sécurité qui nous sont présentés dans Jean. Vous vous souvenez, les trois tests? Que disent-ils? Confessent-ils Jésus-Christ venu en chair? Qui les écoute? Le monde les aime-t-il tout en restant dans son péché? Et qui écoute-t-il? Aime-t-il que ce qu'ils disent soit passé au scanner de l'Écriture? Et ce qu'ils disent révèle-t-il qu'ils écoutent la parole de Dieu? Que disent-ils? Qui les écoute? Qu'écoutent-ils? Et deuxième, donc c'est la première chose, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et deuxième élément que j'aimerais qu'on puisse graver, je l'ai déjà dit tout à l'heure, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Reconnaissez simplement l'œuvre de Dieu en vous et pour vous. Et si tu te rends compte, tu dis, mais attends, non, moi, la vérité, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment saisi. Je n'arrive pas à saisir ça. C'est quelque chose qui me dépasse. Ouais, ça m'intéresse. Mais c'est quelque chose que j'arrive pas à saisir. Je ne comprends pas. Si tu commences à comprendre que c'est peut-être l'esprit du monde qui est là dans ton cœur, je peux que te supplier, mais repens-toi. de ce péché de croire que par toi-même, tu pourras connaître cette vérité. Implore Dieu que son Esprit Saint transforme ta vie et que cet Esprit de vérité vienne habiter en toi. Nous allons prier. Éternel, j'aimerais te louer, t'adorer, te remercier parce que tu es plus grand que toute pensée. Tu es plus grand que tout mensonge que l'on pourrait inventer, le plus tordu qu'il soit. Tu es celui qui est le plus capable de détecter les faussaires, les faux billets. Et Seigneur, tu nous dis dans cette parole de l'épître de Jean que tu vis en celui qui est croyant. Tu vis en nous. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Cela me dépasse, mais cela me rassure. Et j'aimerais, Seigneur, te dire merci, te louer, t'adorer, et te prier de m'aider à être capable toujours de passer par ces tests, pour moi-même, pour l'enseignement que je donne, pour l'enseignement que j'écoute. Et que ce soit vrai pour chacun de nous ici. Et que nous puissions, Seigneur, t'aimer toi, parce que tu es la vérité, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.